Miguel Hernandez.
Les Suisses aiment les grosses voitures. L'année dernière, plus de la moitié des nouvelles immatriculations portaient sur des SUV, ces véhicules utilitaires sportifs plus hauts, plus grands et souvent à quatre roues motrices. Katia Scher, c'est la conclusion d'un rapport publié ce matin par le comparateur en ligne Comparis.
Oui, presque 56% des nouvelles immatriculations sont des SUV en Suisse, avec en tête les modèles de BMW, Audi et Skoda. Alors pour les experts de Comparis, ce goût pour les gros véhicules s'explique par le sentiment subjectif de sécurité et de confort que peuvent donner ces véhicules plus hauts, souvent plus grands et plus lourds que les autres, et le fait que la plupart des constructeurs proposent des modèles électriques, eh bien soutient encore cette tendance, parce que c'est bien de tendance qu'il s'agit, pas seulement en Suisse, même si nous sommes parmi les plus gros acheteurs, partout dans le monde, les SUV ont la cote. Sauf que, les experts de Comparis le rappellent, cet amour pour ces véhicules est problématique. Ils prennent plus d'espace, présentent plus de risques de blessures, d'abord pour les autres usagers de la route, et sollicitent plus lourdement les infrastructures. Et que ceux qui pensent qu'un SUV électrique est plus propre se détrompent. Ils consomment en réalité tellement de ressources à la fabrication qu'il faut plusieurs années d'utilisation pour qu'ils soient, dans les faits, plus écologiques qu'une voiture à moteur thermique.
Les exportations horlogères suisses ont rebondi en avril avec une progression de près de 20%. Cela s'explique par une hausse de presque 150% des envois vers les États-Unis, un pic d'exportation qui reflète davantage une réponse ponctuelle dans un contexte commercial incertain qu'un véritable signal de renforcement de la demande selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse. À Genève, la SLECA s'inquiète d'une nouvelle pratique de résiliation de bail. Selon l'association des locataires, des propriétaires prétexteraient des travaux à faire pour demander le départ des habitants, puis augmenter le loyer de ces logements. Parmi les personnes touchées, Caroline Deschoux, qui vit depuis 25 ans dans son appartement avec son mari et ses deux enfants, elle est tombée des nues en recevant le courrier de résiliation de bail.
En fait, on voyait pas trop quels travaux allaient devoir être nécessaires. Et puis après, effectivement, en se renseignant, il fallait changer la salle de bain, il fallait changer la cuisine, et puis tout ce qui était électricité. On était prêt à augmenter de 500 à 600 francs par mois. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, en fait, je me suis rendu compte que on attendait que la négociation parte à 3 500 francs. Et là, j'ai vraiment pas compris parce que c'était environ 80-90% de plus. En fait, là, pour l'instant, j'ai accusé le coup. C'est pas facile de trouver un appartement dans le quartier dans lequel on aimerait rester. Donc, pour l'instant, j'en suis au début. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est la jungle, en fait.
Des propos recueillis par Anouk Pernet. De son côté, la Chambre genevoise immobilière dit ne pas avoir connaissance de tels cas de résiliation. Elle estime que la loi genevoise est la plus restrictive de Suisse, ce qui ne permettrait pas les hausses de loyers dénoncées. La commission de la concurrence se penche sur la reprise d'Hôtelplan. En février, Migros a cédé sa filiale voyagiste à Der Tour. Ce groupe est déjà actif dans le domaine en Suisse avec ses marques Kuoni et Helvetic Tours. Avec cette acquisition, il devient le plus grand voyagiste de Suisse. La Comco indique que ses premières investigations ont révélé des indices d'une position dominante. Plus d'une centaine d'entreprises appellent l'Union européenne à s'engager à baisser de 90% sa pollution carbone en 2040 par rapport à 1990. Il s'agit de l'objectif affiché par la Commission européenne, mais il est encore loin d'être adopté par les 27 pays membres. IKEA, EDF, Unilever ou Leroy Merlin font partie de ces sociétés à avoir adressé une lettre aujourd'hui au Conseil européen, à la Commission et aux eurodéputés. Au Royaume-Uni, la parade pour célébrer le titre de champion d'Angleterre du FC Liverpool a viré au drame. Une voiture bélier a percuté la foule. 27 personnes ont été blessées, dont 2 sérieusement. La police a indiqué que le conducteur interpellé était un homme blanc britannique de 53 ans de la région de Liverpool et que l'incident n'était pas traité comme terroriste. À Londres, Catherine Illich.
Ce qui devait être un moment de liesse s'est transformé en scène de panique. Des centaines de milliers de fans étaient présents en masse le long du parcours de la parade lorsque vers 18h l'incident s'est produit. Des témoins racontent avoir vu le conducteur essayer de forcer le passage fermé à la circulation alors que des supporters en colère tapaient sur sa vitre pour l'arrêter. Sur des vidéos filmées par des passants, on voit la voiture reculer puis accélérer brutalement dans la foule et percuter des dizaines de piétons sur une vingtaine de mètres avant de s'arrêter. Le conducteur a été interpellé immédiatement. 4 personnes, dont un enfant, ont été dégagées de sous le véhicule par les pompiers. La police évoque un incident isolé sans donner d'autres détails sur le conducteur. Le Premier ministre Keir Starmer parle d'un événement choquant et a exprimé son soutien aux victimes. Catherine Illich, RTS, Londres.
Au moins 52 personnes sont mortes hier dans des bombardements israéliens à Gaza, alors que selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, le Hamas n'a pas accepté la nouvelle offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza proposée par les États-Unis. Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de ramener tous les otages retenus dans le territoire palestinien, les vivants comme les morts. En tennis, Stan Wawrinka pourrait bien avoir joué son dernier match à Roland-Garros. 10 ans après son titre conquis à Paris, il a été battu hier au premier tour en 3-7 par le Britannique Jacob Fiernley. Après la rencontre, le Vaudois a indiqué n'avoir aucune garantie de revenir l'an prochain. Et parmi les autres résultats d'hier, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner se sont qualifiés pour le deuxième tour. Même chose pour Iga Świątek chez les dames. Tandis que la japonaise Naomi Osaka, elle, est en revanche déjà éliminée. Aujourd'hui, un temps assez ensoleillé autour du Léman et en Valais, en partie ensoleillé ailleurs en Suisse romande. Le long des versants nord des Alpes, nuageux avec encore un faible risque d'averse ce matin. En plaine, il fera jusqu'à 21 degrés cet après-midi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Infotrafic RTS.
La route de Mérin est toujours fermée entre la route de Prébois et l'avenue de Matenien en direction de la France à la suite d'un accident. Ça se passe donc dans le canton de Genève. Une déviation est signalée. Toutes les rues adjacentes ainsi que les sorties autoroutières de Mérin sont congestionnées. Il est conseillé d'éviter ce secteur dans la mesure du possible. Et sur le contournement de Genève, de forts ralentissements sont observés entre le Grand Saconnet et Vernier en direction de la France, tout comme en sens inverse entre la douane de Bardonnay et Bernay.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
On en parle. Philippe Gérard.
Et Mathias Brunimann en régie. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission, partie interactive. C'est le traditionnel guichet dont on parle. Et ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur la vie en établissement médico-social, en EMS, Isabelle Fiau.
Oui, entrer en EMS qui sera sa dernière demeure, c'est souvent une étape douloureuse. On doit faire le deuil de sa vie d'avant. On se sépare de son logement, de ses meubles, ses objets, parfois ses animaux de compagnie. On se retrouve à vivre avec des personnes que l'on ne connaît pas et entouré de soignants qui entrent parfois dans sa sphère intime. Malgré tout, les résidents et résidentes restent des citoyens à part entière avec des droits et des devoirs et c'est le sujet de notre guichet ce matin. Peut-on demander une chambre individuelle? Peut-on fumer dans sa chambre? Sortir à sa guise? Prendre son chat? Que se passe-t-il quand la personne perd sa capacité de discernement ou qu'elle est en fin de vie? Et quels sont les droits et devoirs de la famille des résidents? Eh bien, on attend toutes vos questions et vos témoignages. Appelez-nous au 0800 108 208. C'est pour passer en direct et on aime beaucoup ça. Vous pouvez envoyer un message vocal au 076 206 12 12 ou nous écrire un email à onenparle@rts.ch.
Alors avant de présenter nos deux invités, Isabelle, vous nous esquissez le contexte des EMS en quelques chiffres.
Oui, l'Office fédéral de la santé publique publie des statistiques chaque année. Les dernières datent de 2023. Il y avait 1500 établissements dans notre pays et 170 000 personnes y séjournaient. L'âge moyen lors de l'admission est de 82 ans, avec une population majoritairement féminine. Et c'est un secteur économique important avec plus de 100 000 emplois en équivalent temps plein.
Bonjour Valérie Beaumermoux.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes directrice des soins de la Fondation Saphir qui gère notamment 6 EMS dans le Nord Vaudois. Valérie Beaumermoux, quels établissements, quel type d'établissement gère la Fondation Saphir?
Alors effectivement, nous avons 6 établissements médico-sociaux, des EMS, et aussi 2 EPSM qui sont des établissements qui sont destinés à des personnes adultes qui vivent avec des troubles mentaux. Nous avons aussi toute une structure de soins à domicile, une OSAD, orientation psychiatrie adulte aussi, 5 centres d'accueil temporaire, extramuros, donc des accueils de jour.
Accueils de jour, ouais.
Des accueils de jour, un centre d'accueil temporaire intramuros, qui a l'avantage effectivement d'être à cheval entre le domicile et l'établissement médico-social, ce qui présente beaucoup d'avantages aussi pour s'habituer à un EMS. Nous avons aussi des appartements protégés pour la psychiatrie adulte et pour la personne vieillissante. Une colocation senior, qui est un projet cantonal qu'on a ouvert l'année passée à Orbe, et une colocation plutôt à destination de personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs.
Donc plusieurs types d'hébergement.
Voilà, il y a plusieurs missions. Voilà, plusieurs missions. En fait, on a la chance de pouvoir avoir un vrai itinéraire clinique, ça c'est l'infirmière qui parle, un vrai itinéraire clinique pour toutes les personnes que nous accueillons, du domicile en fait, jusqu'à l'hébergement.
Alors justement, vous êtes infirmière de formation, qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la gériatrie ?
Alors, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai envie de dire, parce que mes parents et mes grands-parents ont été les directeurs de la Fondation Beau actuelle à Apples. Mmh. Donc voilà, j'ai grandi dans un milieu d'EMS, clairement. Et puis, en tant qu'infirmière, ce que je trouve qui est important de dire, et là je m'adresse un petit peu aux professionnels de ma discipline, c'est que c'est là où on peut s'éclater le plus quand on est infirmière, clairement. On a un rôle autonome qui est vraiment extrêmement développé. On peut être créative, on peut prendre des risques, on peut imaginer plein de choses. J'ai fait beaucoup d'hôpital aussi avant d'être en gériatrie. Ça fait 25 ans que je suis en gériatrie. Et en fait, à l'hôpital, j'obéissais aux médecins qui me donnaient des ordres. Là, c'est très, très différent. Et on a la chance d'accompagner des gens jusqu'à la toute fin en créant des liens, en créant des liens avec la famille aussi. Donc, c'est extrêmement riche.
Plus d'autonomie et plus d'humanité.
C'est ça.
Vous dites que vous préférez parler des personnes vivant en EMS plutôt que de clients ou de résidents. C'est une distinction importante.
Oui, alors c'est le fruit d'une très très longue réflexion à la Fondation Saphir. C'était de se dire effectivement, on reste des citoyens, vous l'avez dit, hein, jusqu'à la fin de notre vie, et de parler de bénéficiaires. Non merci, de parler de résident avec un E, non merci. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire les choses un petit peu différemment? Et on s'est rapproché de ce courant philosophique qui est l'approche centrée sur la personne. Et à partir de là, on a décidé qu'on allait les appeler des personnes, parce que c'est des personnes à part entière, quelle que soit leur maladie, quel que soit leur trouble, quelle que soit leur vulnérabilité, ça reste des personnes à part entière. Et voilà, on parle de personnes. Donc c'est un peu compliqué à implémenter. Il y a beaucoup de gens qui me regardent un peu bizarrement quand je parle de personnes. Mais ça redonne, je pense, toute sa dimension aux personnes que nous accueillons, que nous hébergeons.
Valérie Beaumermeau, notre première invitée, et à vos côtés, Michaela Vairini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialiste du droit de la famille, chargée d'enseignement aussi à l'Université de Genève, spécialiste de la protection des personnes âgées. Alors je vais vous poser la même question qu'à Valérie Beaumermeau. Pourquoi cet intérêt pour la défense des aînés ?
Tout est né quand j'étais maître assistante à l'Université de Genève. On étudiait le nouveau droit de protection de l'adulte et je me suis rendu compte qu'on... Tous les commentaires par rapport à ces nouvelles dispositions parlaient énormément des personnes avec des dépendances, comment les protéger. Et on oubliait souvent une autre partie donc des personnes vulnérables qui sont les personnes âgées. Et à partir de là, j'ai vraiment essayé de voir si d'autres juridiques s'intéressaient à la protection des personnes âgées. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait vraiment des enseignements académiques, des ordres d'avocats qui s'occupaient de la protection des personnes âgées. Donc j'ai pu partir aux États-Unis pour me spécialiser dans ce domaine. Et de là, j'ai essayé vraiment de sensibiliser à mon retour les praticiens en Suisse à ce droit des personnes âgées.
Et justement, vous avez coédité une collection qui s'appelle « Le droit des personnes âgées ». Et puis, vous êtes membre fondatrice du réseau Senior Law, donc Law, loi en anglais, L-A-W. Quelle est sa mission et qui peut s'adresser à ce réseau ?
Alors, tout le monde peut s'adresser à ce réseau. L'idée était vraiment d'être là pour répondre aux questions, à toutes questions en matière de protection des personnes âgées. Ça peut être en protection de l'adulte, en droit successoral, en divorce d'une personne âgée, les assurances sociales, tout ce qui est rédaction de testament. Donc, on peut nous contacter par courriel. On a fait le choix d'avoir, malgré tout, le step de passer par le courriel. Et puis, notre idée, c'est vraiment d'adresser chaque personne a un praticien qui est spécialisé dans le domaine spécifique et qui est aussi à l'écoute des personnes âgées. Ça pourrait être le fait d'être disposé à se déplacer au domicile de la personne si la personne ne peut pas se déplacer. Ça peut être le fait de peut-être répéter deux fois la même question. Disons, c'est une sensibilité accrue aux besoins des personnes âgées.
Quelles sont les questions les plus fréquentes pour lesquelles vous êtes sollicité, Michaela Vahaini?
En général, on a toujours des craintes par rapport à une entrée en EMS. On a des craintes par rapport à une mise sous curatelle. Et maintenant, de plus en plus, on souhaite aussi planifier les dernières années. Ça peut être planifier une incapacité de discernement, qui va me représenter, qui va prendre les décisions à ma place, et planifier au niveau successoral, qui va hériter.
Voilà, ces questions et d'autres, on les attend bien sûr à notre standard 0800 108 208, composez-le dès maintenant. Les premières questions arrivent en ce moment, elles arrivent aussi par message vocal au 076 206 12 12. On va en prendre connaissance tout à l'heure, mais pour l'instant, voici sur RTS Première, La plus belle pour aller danser. C'est une reprise et c'est une reprise par un chanteur, écoutez.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. De l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit fermait ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie, la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. 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 Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser, je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.
Nouvelle reprise qui modernise sans trahir le classique de Sylvie Vartan, écrit, figurez-vous, par Charles Aznavour en 1964, cette chanson. Et cette version qu'on vient d'entendre est sortie il y a quelques semaines. Elle est interprétée par un chanteur français d'origine monténégrine, Nicolas avec un K. Nicolas qui s'est notamment fait connaître en assurant les premières parties de Grand Corps Malade. C'est une proposition de notre programmatrice Stéphanie Jovanovic.
Infotrafic RTS.
Dans l'agglomération genevoise, la route de Mérin est à nouveau ouverte entre la route de Prébois et l'avenue de Matonien en direction de la France.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Bonjour, l'émission On en parle. Je suis une soignante dans un EMS. C'est vraiment pour la personne qui s'installe, qui arrive pour dernière demeure dans un EMS, elle peut vraiment continuer de vivre comme à la maison, avec des différences, mais on pourra respecter son rythme, ses désirs, son besoin de sortie, de visite. Elle peut vraiment établir un plan de soins, des projets de vie qu'elle pourra continuer. Elle sera allégée de soucis, faire à manger, de toutes les contraintes matérielles. Et pour certaines personnes, c'est vraiment une deuxième vie en EMS. L'EMS n'est pas une prison, ce n'est pas un mouroir, mais c'est vraiment un lieu de vie où la personne continue, maintient ses relations avec l'extérieur, avec sa famille, ses amis. Donc, je prêche un peu pour ma paroisse en disant que l'EMS est un lieu qui a vraiment le mérite d'exister et où on peut se sentir bien, continuer de rire, même de faire des rencontres. Et voilà. Au revoir, merci, on en parle. Bonne journée.
Mais bonne journée à vous, Claire-Lise. Merci pour ce message. Vous l'avez compris, on parle d'EMS au guichet dont on en parle avec nos deux invités, l'avocate Michaela Vaerini et Valérie Beau, mère Mou, directrice des soins à la Fondation Saphir. Alors, ce qu'on entend dans le message de Claire-Lise, c'est qu'elle, bon, elle dédramatise finalement cette entrée en EMS. Mais pourquoi, alors malgré tout, malgré ce qu'elle dit, pourquoi on a toujours peur de cette entrée en EMS, de cette étape, Valérie Beau, mère Mou?
Ben, je crois que ça a déjà été évoqué. Enfin, on ferme un livre pour en ouvrir un autre et on laisse derrière soi tous ces objets d'amour, que ce soit un époux, une épouse, toute une vie. Il y a des gens qui nous disent, moi j'ai passé 60 ans de ma vie dans cet appartement, j'ai tous mes souvenirs, je me trouve dans une pièce qui fait 17 mètres carrés, génial, qu'est-ce que je prends? Des personnes qui effectivement ont été extrêmement bien dans leur santé, qui font un gros accident de santé, qui se retrouvent dépendantes quasiment d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, avec tout ce que ça implique en termes d'impact sur l'image de soi, l'estime de soi, ce sentiment d'être utile ou plus du tout utile. Donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est une multitude de deuils qui arrivent tout d'un coup comme ça et il faut les vivre. Il faut les vivre, il faut les dépasser et il faut les métaboliser, j'ai envie de dire, pour pouvoir investir une nouvelle vie dans l'EMS. Et c'est vrai que notre rôle à ce niveau-là, c'est effectivement d'accueillir et d'être à l'écoute de ces personnes dans leur propre histoire, dans leur singularité, de pas avoir une approche qui est standardisée en disant eh ben voilà, ici c'est comme ça, on va organiser les choses comme ça, non, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, qu'est-ce qui va vous donner pas du tout envie de vous lever le matin, où sont vos souhaits, où sont vos désirs, où sont vos peurs, où sont vos craintes, et quand on commence comme ça, eh bien, on établit d'emblée une relation qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus horizontale et qui permet finalement d'aider la personne à traverser tous ses deuils de manière beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire.
Isabelle Fiot.
Astrid nous écrit un petit peu dans la même lignée que Claire-Lise tout à l'heure qu'on a entendu. Quand la santé de ma mère se dégradait vraiment, elle a décidé d'aller elle-même en EMS. Elle a fait toutes les démarches toute seule. Elle était très heureuse en EMS. Elle disait que c'était l'antichambre du paradis. Tout le monde était là pour l'aider. Oui, c'est un deuil à faire de notre autonomie, mais c'est aussi pour le mieux parfois. Ce qui revient un petit peu à dire ce que vous venez de dire. Est-ce que, malgré tout ce que vous nous avez présenté à l'instant, Valérie Beau-Mermoux, c'est vraiment l'idéal, mais ça demande aussi énormément de moyens en personnel. Est-ce que vraiment c'est faisable?
Alors on y tend. Je pense que c'est une vision, je pense que c'est un idéal, c'est pas une utopie, je pense qu'on peut vraiment y arriver, mais c'est clair que ça nécessite beaucoup beaucoup de choses et pas seulement du personnel, ça nécessite je pense un retournement de, voilà, on parlait tout à l'heure de l'hôpital, l'EMS pendant longtemps ça a été une continuité de l'hôpital, là pour en faire un lieu de vie c'est tout autre chose, donc ça demande vraiment des connaissances différentes, des compétences différentes, une capacité à être à l'écoute, à être humble, aller à la rencontre des gens, plutôt que de se dire qu'on sait parce qu'on a un diplôme ou plusieurs diplômes. Donc je pense que c'est possible, mais ça c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'une vision d'accompagnement comme ça, c'est pas fait pour tous les professionnels de la santé et de l'accompagnement plus large. Je suis directrice d'accompagnement, en fait, pas des soins, parce que justement, on est dans une vision d'accompagnement plutôt que de soins pour éviter de médicaliser et de trop mettre en avant la maladie. Voilà. Mais je pense que c'est possible. Maintenant, ça nécessite beaucoup de remise en question. Et puis, en termes de loi aussi, des fois, ça nous met des bâtons dans les roues parce que si on veut être comme à la maison, il y a des rythmes différents, des besoins différents. Et il y a des lois, des fois, qui nous empêchent de faire un petit peu ce qu'on veut.
Alors la loi, justement, c'est vous qui l'incarnez, Michaela Vairini, avocate, hein, c'est vous qui répondez aux questions justement des droits et devoirs des résidents et de leurs proches. Alors, j'utilise le mot résident, moi je sais que ça vous plaît pas, hein, c'est les personnes en EMS, mais que ce soit clair pour tout le monde. Vous pouvez donc nous appeler, poser vos questions au 0800 108 208 et c'est ce qu'a fait Rose justement qui est en ligne avec nous. Bonjour Rose.
Oui, bonjour. Alors ma question est la suivante. Il y a une situation qui me tire les potes. Je suis genevoise, mais je passe de plus en plus de temps dans mon chalet qui est dans le canton de Vaud. Le jour où je devrais déménager en EMS, est-ce que je peux revenir à Genève? Ça, c'est ma question. Si je transfère mes papiers, entendu. Hein.
Mais vos papiers sont où? À Genève ou dans le canton de Vaud?
À Genève pour le moment, mais j'envisage de les changer.
D'accord.
Mais si ça me complique la suite, je ne le ferai pas.
D'accord, donc vous envisagez de changer vos papiers pour vous installer dans le canton de Vaud, pour rester plus souvent dans le canton de Vaud, et après vous aimeriez,
exact.
Si vous devez entrer en EMS, revenir sur Genève, est-ce que c'est possible? Michaela Vairini.
Voilà.
Alors, bonjour, merci pour la question. Ben, c'est un peu compliqué au niveau administratif parce qu'en général, on donne la priorité aux EMS donc de proximité. Après, il faudra vous renseigner, voir par exemple à des établissements privés dans la région genevoise, s'il y en a. Ça serait plus simple d'être domicilié à l'endroit où après vous souhaitez entrer en EMS.
Est-ce qu'on peut pré-réserver sa place en EMS?
Non, c'est malheureusement pas. Et c'est très compliqué parce que souvent on a, comme on disait avant, un besoin immédiat. Par exemple, on a un accident, on doit entrer peut-être pour une courte durée. C'est pas définitif dans un établissement. C'est pas toujours peut-être le bon établissement. Après, il faut en chercher un autre. Quand on cherche un établissement pour une longue durée, on le trouve pas tout de suite. Il n'y a pas la place. Donc, c'est pas évident. Pas évident, mais c'est difficile à planifier aussi l'entrée.
C'est vrai. Donc, ce qu'on peut conseiller à Rose, si elle souhaite absolument entrer en EMS et rester à Genève, en fait, être dans un EMS genevois, c'est de garder ses papiers.
C'est de garder ses papiers à Genève, profiter du canton de Vaud, mais rester domicilié à Genève.
Voilà ce qu'on pouvait vous répondre, Rose. Isabelle.
Oui, on reçoit quelques questions par écrit, notamment Joséphine du Tessin, et ça va nous permettre d'aborder la question des droits, hein, vraiment, des droits fondamentaux des personnes. Alors, c'est un peu philosophique. Joséphine du Tessin nous demande, lorsqu'une personne entre en EMS, pourquoi doit-elle s'adapter à la structure et non pas à la structure qui s'adapte à elle? Ben, Madame Boumermou, vous nous avez dit que chez vous, vous avez un peu cette idée que l'institution aussi s'adapte à la personne.
Absolument, le défi, il est là finalement, c'est de faire que l'organisation soit au service de la personne et pas l'inverse. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que les gens vivent en communauté et qu'il y a des règles qui s'appliquent en communauté. Même moi, dans mon appartement, je peux pas faire tout ce que je veux à n'importe quelle heure de la nuit ou de la semaine. Donc, c'est vrai que tant que faire se peut, quand effectivement le besoin de liberté ou d'autonomie de la personne s'arrête aux besoins d'autonomie et de liberté des autres, ça s'accorde. Mais tant que faire se peut, on respecte les rythmes, on respecte les souhaits, que ce soit les horaires de lever, les horaires de coucher, de participer à une activité ou pas, d'avoir un rêve à réaliser une dernière fois ou une prochaine fois, de voir les personnes qu'on veut, de choisir aussi les référents que l'on souhaite pour nous accompagner pendant la période d'hébergement. Donc, il y a effectivement une grande partie d'autonomie qui est possible, où on s'adapte. Mais quand je parlais tout à l'heure des lois, par exemple, il y a la loi sur le travail, de temps en temps, qui nous empêche d'être beaucoup plus large, d'être beaucoup plus ouvert à des aménagements de temps de travail, par exemple. Et il y a toutes les normes qui sont liées aux structures architecturales. Par exemple, parler de la fumée tout à l'heure dans sa chambre. Ben non, c'est interdit de fumer dans sa chambre. Même si c'est son espace privé, nous avons des règles qui nous l'interdisent. Les règles défense incendie, il y a des normes aussi de construction architecturale. Donc voilà, dans ce cadre, parfois qui est un petit peu rigide, on essaie de l'étirer au maximum. Des fois, on réussit, puis des fois, non, on nous rappelle à l'ordre.
Prendre un animal de compagnie dans un EMS, est-ce que c'est possible?
Oui, oui. C'est
un chat
possible.
Ou un chien?
Un chat, un chien. Alors, pour le chien, ça va dépendre du chien.
Oui. un Saint-Bernard, c'est
voilà,
peut-être pas très...
Voilà, et puis du bruit qu'il fait, un petit chien qui hurlera toute la journée, ça va pas, on sait que les petits chiens... hurle beaucoup. Maintenant, c'est vrai que on peut pas non plus accepter tous les animaux, parce qu'effectivement, si j'accueille 85 personnes dans un établissement, je peux pas avoir 85 chats. Il faudrait autant de collaborateurs pour m'occuper des chats que des personnes, donc ça va pas le faire. Oui. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible suivant certaines situations. Et puis, même en cas de décès des personnes, l'animal est souvent ensuite adopté, soit par l'établissement, soit par un collaborateur qui s'est pris d'affection pour lui et qui l'accueille chez lui. Donc, c'est des histoires qui continuent.
Dans les questions pratiques, vous l'avez dit, donc fumer dans sa chambre, non. Est-ce qu'on peut demander une chambre individuelle? Est-ce qu'on peut demander une chambre individuelle de nos jours?
Alors oui, bien sûr. La plupart des établissements qu'on construit à l'heure actuelle sont constitués uniquement de chambres individuelles qui sont parfois modulables pour pouvoir accueillir des couples. Il y a des vieilles structures. Malheureusement, il y en a deux à Saphir, trois qui sont vieillissantes vraiment, dans lesquelles il y a encore des chambres doubles. Donc c'est clair qu'on ne choisit pas la personne avec qui on va habiter.
Michaela Vairini, on va peut-être juste aussi ouvrir ce petit chapitre sur les droits fondamentaux des personnes entre le ou la citoyenne qui était à la maison et qui se retrouve en AMS. Est-ce que ces droits fondamentaux sont les mêmes?
Oui, heureusement. Donc, on garde nos droits.
Lesquels?
On a déjà le droit au respect de notre sphère intime, notre sphère privée. On peut avoir le droit de vote. On a le droit à avoir une intimité. Tout ce que nous, on peut avoir à l'extérieur, on a à l'intérieur. Après, on a dit, on a une vie communautaire, hein, donc c'est normal que nos droits s'arrêtent par rapport aux droits des autres. C'est très important donc de savoir que vraiment c'est un lieu de vie dans lequel nos droits demeurent les mêmes.
Est-ce qu'on a le droit de se déplacer à notre guise, de sortir à notre guise? Est-ce qu'il y a des limites, Valérie Baumermoux?
Alors oui, parfois il existe des limites. Si je parle des EMS, notamment les EMS qui accueillent des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs, donc qui sont à risque de partir. Je parle pas de fugue, parce que pour moi ça n'a pas de sens de parler de fugue, mais qui risquent de partir, se promener tout seul. Oui, il y a des limitations de liberté, c'est clair. Parce que s'ils partent tout seuls, ils se mettent en danger. Et on est obligé finalement de les accompagner dans leurs déplacements. Et puis il y a toutes les mesures aussi de PAFAS, Maître Vairini pourra nous en parler un petit peu plus. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont placées à des fins d'assistance. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'ils sont un peu limités dans leur mouvement. Mais à l'intérieur de l'établissement, tout le monde se mobilise comme il le souhaite. Les personnes qui sont en capacité de se déplacer à l'extérieur peuvent aller faire leur commission à la Migros. Si la Migros est pas trop loin, aller à la banque, chercher de l'argent, enfin j'entends. De ce côté-là, il n'y a pas de limitation. C'est finalement la situation de santé, parfois, qui les limite, ou une condition légale qui les limite aussi.
Amélie nous a écrit et nous pose la question suivante. Est-ce que c'est vrai que dans le canton de Vaud, on ne peut pas choisir son EMS, mais que c'est un organisme qui choisit pour nous? Peut-être expliquez-nous la procédure, Valérie Baumermoux.
Alors, c'est juste et pas juste. Donc, effectivement, comme le disait tout à l'heure Maître Vairini, il y a une notion d'urgence au placement, à l'hébergement, et puis effectivement des brios, ça s'appelle les brios, c'est des bureaux régionaux d'orientation, ouais, qui sont responsables finalement d'être au courant de toutes les situations qui ont besoin d'un hébergement et qui, en fonction de la situation de la personne et des disponibilités dans différents établissements, vont proposer un hébergement. Maintenant, c'est vrai que la bonne pratique, c'est aussi de proposer du choix trois fois. La personne, finalement, elle peut dire trois fois, j'ai pas du tout envie d'aller dans cet établissement. On en tient compte dans la grande mesure du possible. Et puis, il y a toujours des transferts ensuite dans un deuxième temps qui sont possibles. Donc, on peut entrer pour une période déterminée dans un établissement et demander un transfert dans un deuxième établissement. Mais c'est vrai qu'il y a plus de liste d'attente. Comme il y a 25 ans en arrière, j'ai connu, ça s'est terminé. C'est vraiment un bureau cantonal qui se charge d'orienter les personnes.
Valérie Baumermoux et Michaela Vairini sont nos deux invités jusqu'à 10h pour parler des EMS, l'entrée en EMS, la vie en EMS, les droits et devoirs des personnes qui sont en EMS, mais les droits et devoirs aussi de leurs proches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, 0800 108 208 ou un message vocal ou écrit au 076 206 12 12. Il n'est pas à l'IMS, lui, il est toujours sur scène. Iggy Pop, Lust for Life, dans Le Guichet, dont on en parle à 9h37 sur RTS Première, avec nos deux invités, Valérie Beaumermou, directrice des soins à la Fondation Saphir, et maître Michaela Vaherini, avocate spécialiste du droit de la famille, et spécialiste justement de la protection des personnes âgées. Et nous recevons pas mal de questions à notre standard, Isabelle.
Une question de Claudine à Lausanne. Je vais deux fois par semaine chez un monsieur âgé, il est pré-inscrit dans un EMS depuis un an. Son état se dégrade. Est-ce qu'on peut demander à l'EMS qu'il soit prioritaire maintenant pour trouver une place ? Valérie Beaumermou.
Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire une préinscription. C'est vrai qu'on a peut-être une préférence pour un EMS, mais comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est le bureau régional d'orientation qui va effectivement prendre sa demande. Donc moi, ce que je recommanderais à cette personne, c'est plutôt de se réadresser au Brio. Qui est dans la région de ce monsieur, et d'effectivement les contacter régulièrement pour leur demander où en sont les démarches.
Donc Brio, c'est donc ces bureaux d'orientation, exactement, et dans chaque canton, il y a un système à peu près
propre.
Similaire.
Alors, voilà, exactement. Ou similaire ou différent, ça j'aurais de la peine à vous répondre, mais en tout cas dans le canton de Vaud, nous procédons ainsi.
Marlise nous demande... Pouvez-vous aborder les questions financières ? Évidemment, c'est un point central. En gros, combien ça coûte un mois en EMS ?
Alors, j'ai peur de dire une grossièreté. Alors, c'est à peu près 6000 francs par mois pour tout ce qui est infrastructure. Par-dessus, il faut ajouter les soins. Les soins donc sont financés par la LAMAL sur la base d'une évaluation du besoin en minutes de soins. C'est comme ça que ça se calcule. Et effectivement, il y a trois piliers qui permettent de payer cet hébergement. Donc, il y a les soins à l'assurance maladie, l'hébergement qui est l'accompagnement du résident, de la personne en l'occurrence, qui comprend la structure et l'animation socioculturelle, un certain nombre d'activités. Et puis ensuite, tout ce qui est infrastructure vraiment de l'établissement, c'est financé par le canton de Vaud, par l'État de Vaud.
Et justement, qui paye la facture ? Est-ce que c'est la personne elle-même ?
Alors clairement, si la personne a une fortune, c'est des revenus qui lui permettent de payer l'hébergement, c'est clairement elle qui va payer. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, il y a toute une série d'assurances sociales qui se mobilisent, l'EPC, l'AI, enfin toutes ces assurances sociales qui permettent finalement de payer la différence entre les revenus propres de la personne et ce qui va manquer pour payer l'hébergement.
À qui on peut s'adresser pour ces questions financières ? Je ne sais pas si Michaela Vaherini, vous savez, si les personnes, quand son proche va devoir entrer en EMS, où est-ce qu'on peut se renseigner pour clarifier la question financière ?
Il y a toujours... Pour des questions générales, moi je conseille toujours de s'adresser par exemple au bureau de prosénectuté de la région, mm-hmm. qui ont des personnes très compétentes qui peuvent déjà orienter, parce que c'est très cantonal. Donc, prosénectuté donne des bons conseils, et par la suite, il y a toujours les bureaux cantonaux auxquels on peut s'adresser, demander les renseignements. Si la personne entre en EMS, la direction générale est disponible et peut également... aider la personne. Et donc c'est vraiment au niveau cantonal qu'il faut se renseigner, mais entre la direction l'EMS, Prosénectuté ou appeler directement les offices cantonaux, on a toutes les informations nécessaires.
Valérie Beaumermou.
Oui, et puis en ligne pour le canton de Vaud, en tout cas il y a les mementos de la DGCS qui permettent aussi, si c'est une dizaine de mementos qui sont extrêmement précis et qui précisent qui paye, comment ça se passe, la part, les moyens de recours. Donc il y a toute une documentation qui est disponible en ligne aussi.
Quand on entre en EMS, comment se passe le passage de témoin médical entre le généraliste et le médecin de l'EMS, notamment pour le suivi des médicaments, nous demande Marie de Montreux.
Moi, j'aimerais déjà dire qu'on a le droit de garder son médecin généraliste. Après, le problème, c'est que quelquefois, c'est compliqué. Même pour les personnes incapables de discernement, c'est même inscrit dans le code civil qu'on a le droit de garder son médecin. Après, on peut avoir des contraintes liées à la distance de ce médecin par rapport au lieu de vie. Le fait que malgré tout, certains EMS poussent pour que leur médecin soit le médecin qui traite les personnes, mais on garde ce droit d'avoir ce médecin.
Donc, si le médecin est d'accord,
évidemment. Si le médecin est d'accord, il y a les deux éléments. Je laisse peut-être aussi madame
Valérie Beaumermeau.
Et puis c'est vrai que l'établissement aussi, a, entre guillemets, son mot à dire. C'est pas tellement qu'on les pousse à prendre le médecin, mais c'est vrai qu'étant donné qu'on accueille comme des personnes qui ont souvent des problèmes de santé multiples, il faut aussi une certaine, des fois, réactivité. Alors l'éloignement, le système de garde, qui est de garde quand la personne en a besoin du médecin. Donc en principe, le passage de témoin se fait assez facilement. Il y a juste un transfert de dossier. La personne demande à son médecin traitant de transférer le dossier au nouveau médecin. Et les choses, elles suivent. On a aussi le fait que la personne peut garder aussi son pharmacien. Mais là, c'est compliqué aussi. Donc très souvent, alors on conseillera plus facilement effectivement que la personne prenne le pharmacien qui fournit les médicaments de l'EMS pour des questions de praticité. Mais voilà, effectivement, ça se passe assez souplement. C'est pas quelque chose qui pose problème.
À 9h42, on va prendre un message reçu par WhatsApp au 076 206 12 12. On écoute Marlise.
Ça fait un peu plus d'une année que ma maman est en EMS. Elle a changé d'EMS dans la Broye, elle était aux Mouettes et elle a passé à Montagny-la-Ville. Et, au niveau du personnel, au niveau des soins, de l'attention, c'est vraiment super. On a eu vraiment la chance d'avoir une chambre où elle a passé d'une chambre à deux lits à une chambre seule avec une superbe vue sur la Broye. Ça, elle est très heureuse. Et je voulais vous dire que le seul problème qui est vraiment gravissime, c'est la nourriture à Montagny. La nourriture est confiée à un organisme et il y a des choux tout le temps, des oignons tout le temps, de la sauce pour cacher ce qui n'a pas été cuisiné correctement. Et je dois toujours, comme sa fille, apporter à manger parce que elle ne supporte pas, elle n'est pas allergique, mais elle digère plus. Et ça, c'est assez dramatique pour elle. Où elle était avant, elle avait plusieurs menus à choix. Et là, maintenant, c'est un menu imposé. Et parfois, il y a zéro nourriture qui lui convient. Donc, malgré qu'on ait parlé au moins 20 fois avec le cuisinier, ça n'a pas changé. Elle n'a toujours pas d'autres alternatives. Et j'avoue que pour elle, c'est un sujet de déprime énorme. Et malgré tout le reste qui va bien. Voilà, c'était un témoignage. Merci beaucoup.
Voilà, témoignage de Marlise sur la nourriture. Quand la nourriture ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Michaela Vareni.
J'avoue que je suis aussi souvent confrontée par Signor Lowe à des proches, voire des personnes résidant en établissement qui me signalent des soucis par rapport à la nourriture. Après, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est une vie communautaire. Ce qu'on conseille de faire, c'est comme a fait la dame, de discuter avec la direction, avec les responsables cuisine, pour voir si on peut faire quelque chose. Mais après, il faut aussi être conscient qu'il y a plusieurs résidents, que c'est pas évident. C'est plutôt vraiment au niveau d'une négociation entre l'établissement et le résident.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, en prenant langue avec la direction, de passer un peu pour les enquiquineurs de service, et puis du coup, que le proche en EMS devienne un peu le souffre-douleur du personnel?
Moi, je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est en lieu de vie, on a le droit d'exprimer ses souhaits. Ça doit rester dans le respect, c'est normal. Mais dire, comme la dame a dit, la nourriture convient pas à ma maman, est-ce qu'on peut trouver une solution alternative? Ça fait partie des discussions qu'on peut avoir par rapport en lieu de vie. Donc pour moi, il faut vraiment pas craindre par rapport à des questions qui sont tout à fait légitimes. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une certaine limite d'action de la part de l'établissement.
Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent par email au sujet justement de la localisation de l'EMS. Est-ce qu'on peut aller dans un autre canton? fond, c'est vrai que l'organisation est cantonale. Valérie nous demande, mon compagnon et moi souhaitons le moment venu vivre dans le même EMS. Nous avons deux domiciles différents et bien que séparés de quelques kilomètres sur Vaud et sur Valais. Comment devons-nous nous y prendre afin que notre volonté puisse se réaliser? Et Jacqueline de Bienne a un peu la même question. Je suis dans le canton de Berne, mais j'aimerais aller dans le Jura. Est-ce que c'est possible? Valérie Beaumermou.
Alors là, je pense qu'on a déjà répondu un petit peu en partie à cette question. C'est clair que c'est toujours possible. Je sais que dans nos structures, par exemple, on a accueilli quelques Genevois. Voilà. Donc il y a toujours des exceptions qui sont possibles. C'est souvent des discussions. C'est souvent assez lourd, effectivement, au niveau administratif. Mais il y a toujours possibilité de le faire.
Il faut s'adresser à l'EMS en question ou plutôt aux bureaux régionaux, valaisans
et aux bureaux régionaux s'ils existent. Ouais. Absolument.
Sinon, déposer ses papiers, c'est ce que vous disiez.
C'est ça, oui, justement. Oui.
Déposer ses papiers dans le canton qui nous intéresse.
Donc, si Jacqueline veut aller dans le Jura, il faudrait théoriquement qu'elle dépose ses papiers dans le Jura. Une question encore très basique de Jérôme. Est-ce qu'il y a des soins dentaires dans les EMS?
Oui.
Et de coiffure?
Oui.
J'y pense maintenant, oui.
Oui. Yeah.
Et puis Simone de Martigny nous demande, si on n'a pas assez de sous pour entrer en EMS, est-ce qu'on peut quand même avoir de l'argent de poche?
Oui. Alors on ne parle plus d'argent de poche, c'est aussi quelque chose auquel je suis très attentive, on donne de l'argent de poche à des enfants.
Oui.
pour les personnes effectivement qui sont hébergées, elles reçoivent une certaine somme tous les mois. Effectivement, c'est ces assurances sociales qui versent cette somme qui est de 285 francs je crois à l'heure actuelle. Et puis effectivement ça peut servir à payer le coiffeur, la podologue, enfin toutes ces choses dont on a besoin.
Donc, on est entré dans le dernier quart d'heure de ce guichet consacré aux EMS, à la vie en EMS, avec nos deux invités Valérie Beaumermou et Michaela Vaherini. Et avec vous, il vous reste encore quelques minutes pour atteindre notre standard au 0800 108 208 ou au 076 206 12 12. On va s'écouter un peu de musique en attendant.
Just remember, baby, whatever we go through, all the good feelings for one another, as we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other, don't ever, ever let them go. We dance to the radio. All the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. Oh,
Good Feelings, le nouveau single extrait du dernier album de Coldplay, album intitulé Moon Music, ici en compagnie de la chanteuse béninoise active au Nigeria, Ayra Starr. À 9h52, on écoute un message reçu par WhatsApp audio 076-206-1212.
Bonjour, ma maman qui est très âgée est en EMS. Avant, elle partageait une chambre avec mon père. Mais elle a passé maintenant, depuis qu'il est décédé, dans une chambre individuelle. Et on doit payer 700 francs par mois de supplément pour cette chambre individuelle, sans douche et sans WC. Sur cette somme, il n'y a aucune subvention. Donc, elle doit payer avec le reste d'économie ou c'est nous qui devons l'aider. Est-ce normal de devoir payer un tel supplément ? Vu qu'il y a des EMS dans lesquels il y a des chambres individuelles pour tout le monde. Merci.
Alors, qui veut répondre ? Michaela Vairini.
C'est difficile de s'exprimer par rapport à la situation spécifique, mais c'est clair, de manière générale, on peut avoir des situations dans lesquelles il faut payer en supplément par rapport à une chambre où on est seul.
C'est pas standard pour tous
non,
les EMS.
Non, c'est pas standard. Dépend... C'est pour ça que j'ai dit, je connais pas la situation spécifique. Après, ce qui est difficile à comprendre pour les proches, et j'ai souvent aussi des appels par rapport à ça, c'est de comprendre que finalement, il faut d'abord utiliser son épargne, son argent, et seulement à la fin, quand on aura plus, hein, on passe un certain seuil, on pourra demander les aides de l'État. Donc effectivement, peut-être pour les proches, pour les enfants, on croit qu'on a un certain droit à hériter de l'argent. Malheureusement, c'est pas le cas de madame, j'ai dit juste de manière générale, mais on doit d'abord utiliser son argent. Donc ça peut être très frustrant. On met tout à côté, après en quelques années, tout est utilisé par rapport à l'EMS. Mais c'est ça la règle.
Oui, ça fait écho d'ailleurs à un message de Carmen qui nous dit « J'aimerais savoir si les enfants sont mis à contribution pour financer un EMS ». Valérie Beau-Mermoux, vous faites non de la tête.
Alors non, à part justement les suppléments par rapport à une chambre individuelle. Dans le canton de Vaud, il faut savoir que depuis qu'il y a eu l'IDEMS, c'était en 2000, je ne sais plus combien, 2013, avant 2011 j'imagine.
C'est quoi l'IDEMS ?
Qu'est-ce que c'est ? C'est les directives architecturales des EMS. En fait, toutes les chambres individuelles ont été considérées comme le standard. Par contre, pour les vieux établissements qui ne sont pas soumis à ces normes, effectivement, il y a chaque fois un supplément qui est demandé pour des chambres individuelles. Je comprends tout à fait madame, je partage son sentiment quand il n'y a pas de salle de bain, quand il n'y a pas vraiment le minimum du confort dans une chambre et qu'il faut payer en plus, alors l'établissement d'à côté qui date de 2020 propose toutes ces commodités entre guillemets gratuitement, c'est extrêmement frustrant, mais malheureusement tant que ces vieux établissements dans le canton de Vaud seront présents, ce sera un petit peu la norme.
Mais ce que demande Carmen, c'est si par exemple on a un résident qui est désargenté, qui doit faire appel aux assurances pour payer les EMS, et que par ailleurs il a des enfants très fortunés, est-ce que les enfants peuvent être sollicités pour payer les EMS ? Non.
Alors, en principe, non. Après, on peut avoir des cas spécifiques dans lesquels peut-être la personne a fait des dons à ses proches. Et là, on pourrait donc rechercher cet argent si la personne s'est dessaisie de son argent avant l'entrée en EMS.
Oui,
Isabelle. Un témoignage de Lola nous est parvenu dans le canton de Vaud. Une expérience moins bien pour ma maman qui est tombée, elle s'est cassé le bras et l'EMS s'en est rendu compte 2 jours après quand le bras était bleu. Et shootée au médicament à 96 ans, elle était presque inconsciente, on a dû l'amener nous-mêmes à l'hôpital. Pas top, nous dit Lola. Quand une famille a une plainte, enfin que ce soit justement la nourriture, la prise en charge des soins, à qui est-ce qu'elle s'adresse ?
Alors, je pense qu'en priorité, il faut s'adresser à la direction de l'établissement, clairement. Et puis, très très souvent, quand les choses elles sont bien bien faites, on arrive à trouver des solutions ensemble. Après, quand c'est pas possible, il y a quand même dans le canton de Vaud plein d'organismes qui permettent de mettre en face à face les parties qui sont pas d'accord. Je pense notamment au bureau de médiation du canton de Vaud, auxquels j'ai déjà fait appel.
Si on a un conflit, on peut faire appel aux bureaux de médiation.
Que ce soit l'établissement ou les proches ou la personne. Il y a aussi la ligne téléphonique permanente pour les doléances aussi, du canton de Vaud. Et puis on a la commission d'examen des plaintes. Donc il y a plein d'endroits où finalement on peut se référer. Mais je conseille toujours en premier de s'adresser à la direction de l'établissement, de manière à éviter que ça prenne trop d'ampleur en fait.
Michaela Vairini, vos conseils justement quand il y a litige, quand il y a insatisfaction de la part des proches ou de la part des résidents?
Je pense également que la collaboration avec l'Institut est essentielle. Il faut pouvoir parler avec la direction. S'il y a un souci, il faut essayer de trouver une solution. Je pense également que toute médiation est positive dans ces situations. Donc, on peut passer par des médiations qui sont offertes au niveau cantonal. Ensuite, effectivement, quand on passe dans des aspects de maltraitance, malheureusement, ça existe aussi. Donc là, ça risque d'être plus compliqué. Et alors là, on peut contacter des associations, par exemple comme Alter Ego, qui peuvent donner des conseils aux proches ou aux personnes résidant dans les établissements. Permettre, on peut aller au centre La Vie en cas de maltraitance également. Donc il y a tout un système qui est également mis en place pour protéger les résidences par rapport à des maltraitances physiques ou même d'autres types de maltraitances.
Michaela Vairini, avocate spécialiste du droit de la famille, spécialiste aussi de la protection des personnes âgées, et Valérie Beau-Mermoux, directrice des soins de la Fondation Saphir, qui gère donc 6 EMS dans le Nord Vaudois. Merci à toutes les deux répondu aux questions, nombreuses questions de nos auditrices et auditeurs. On n'a pas pu toutes les prendre malheureusement. Et puis on va finir avec ce message plutôt positif de Michel de Villeneuve qui nous dit « Ma maman était en EMS, elle nous a toujours dit si j'avais su je serais venue avant. Je trouve que c'est une institution formidable et je n'ai pas peur d'y aller quand j'en aurai besoin. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que les familles abandonnent les gens, il faut leur rendre visite. » Voilà, c'est le message de Michel. Demain, et bien on va s'évader à notre guichet puisqu'on va le consacrer à l'une des activités préférées des Suisses et des Suissesses, la randonnée.
On en parle. Philippe Gérard.
Bonjour Stéphane Gabiou.
Bonjour Philippe.
Stéphane Gabiou, ce matin dans CQFD, la peur de l'hôpital.
Oui, j'imagine qu'on est nombreux et nombreuses à avoir déjà ressenti ça. Et déjà tout petit, hein, c'est vrai, ça fait peur. Ça peut même faire mal aussi quand on est à l'hôpital. Alors comment rendre les soins médicaux adaptés aux enfants pour leur éviter de ressentir trop cette peur et cette douleur? On vous emmène en reportage ce matin dans l'unité des bébés et dans la cellule confort des HUG.
Voilà, aux enfants et aux adultes. Hein,
aussi, exactement.
Voilà, CQFD. À